Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Entre chacun de ses séjours au pays du ciel bleu, Marc Allot, salarié de Transboréal, consacre tout son temps libre à l'étude des steppes d'Asie centrale et de Haute-Asie. Il donne régulièrement des conférences, participe à l'organisation d'événements culturels en rapport avec la Mongolie et publie des articles sur l'économie, l'histoire et la culture mongole. Fin connaisseur de ce monde, qu'il a déjà parcouru plusieurs fois en solitaire avec son ami d'enfance ou sa compagne, il nous livre dans cette émission son livre « Sous les yourtes de Mongolie » qui retrace son voyage dans le désert du Gobi jusqu'au versant occidental du massif du Khenti en passant par la frontière bouriate à Oulan-Bator. Alors là, on est sur le salon du tourisme à Colmar, dans le hall Solidarissimo. Et je t'ai rencontré sur le stand de Transboréal, donc Marc Allot. Tu es l'auteur de plusieurs bouquins sur la Mongolie, publiés chez Transboréal. Donc peut-être d'abord te demander, Transboréal, c'est quoi ? Comment s'est fait la rencontre avec Transboréal ?
Transboréal, c'est une petite maison d'édition qui est indépendante, qui est installée à Paris, qui existe depuis une douzaine d'années et qui donne la parole à travers des récits de voyage ou des essais sur la thématique du voyage à des gens qui se sont accordés plusieurs mois ou plusieurs années pour se confronter à un écosystème difficile, à pied, à cheval, avec des chiens de traîneau, en canoë, ou s'immiscer dans une culture pour en apprendre la langue, les habitudes, les coutumes, se familiariser avec la vie quotidienne d'une population. Et du coup, à leur retour, témoigner de leur expérience à travers non pas seulement un carnet de bord, mais un récit de voyage qui est émaillé de réflexions sur la population ou l'écosystème qu'ils ont rencontré ou traversé.
Donc c'est vraiment axé sur le voyage d'une façon équitable ou d'une façon respectueuse de l'environnement et de l'homme.
Alors oui, parce que la volonté première, c'est donner la parole aux voyageurs au long cours, les gens qui ont pris des mois, des années et qui du coup nécessairement sont amenés à réfléchir, nécessairement ne consomment pas du voyage, mais le préparent, acceptent un certain sacrifice, aussi bien financier que parfois sentimental, parce qu'ils s'arrachent à leur famille durant plusieurs mois ou plusieurs années. Et donc nécessairement, voilà, le contact avec les populations se fait tout doucement. L'intrusion dans l'écosystème ou dans la nature est plus douce qu'en 4x4 ou que pour une semaine de marche qui finalement contraint à presque développer un esprit sportif. Voilà. Là, les gens essaient de s'imprégner d'une ambiance, s'imprégner d'une nature, s'imprégner des habitudes d'une population. Et ensuite témoigner avec vigueur, avec passion de leur expérience.
Qu'est-ce que c'est pour toi un voyageur ou le voyage ? Qu'est-ce qui se cache derrière le mot voyage ? Qu'est-ce que c'est faire un voyage ?
Peut-être que la vie est un voyage et donc une aventure, c'est comme un voyage, c'est peut-être se dire que le voisin ou la voisine, qu'il soit mongol ou français, a un intérêt. En l'occurrence pour les Mongols, qu'ils soient ruraux ou citadins, ils portent en eux un héritage, un patrimoine historique, une langue, des coutumes qui font que nécessairement il y a un intérêt formidable à les découvrir. Et de même, mon voisin en région parisienne, celui qui est de l'autre côté du mur, de l'autre côté de la barrière ou de la frontière, qu'il soit espagnol, portugais, allemand, nécessairement lui aussi, il mérite que je m'intéresse à lui, que je porte un œil finalement assez ouvert et assez attentionné, comme je le porterais sur une population très lointaine comme celle des Mongols.
Donc c'est vraiment se mettre face à l'autre et prendre le temps d'essayer de faire preuve d'empathie, de le comprendre, de parler, d'échanger, de partager nos parcours de vie respectifs.
Oui, et puis surtout développer une curiosité qui fait que moi je sais que l'intérêt formidable pour moi du voyage au long cours, c'est que finalement je vais m'intéresser de la même façon à un pasteur nomade mongol qu'à un épicier dans un hameau isolé, parce que finalement le fait que je sois étranger sur leur territoire, j'ai absolument tout à apprendre d'eux, j'ai absolument tout à découvrir d'eux. Et donc chacun va pouvoir me raconter son histoire personnelle, et en l'occurrence en ce qui concerne la Mongolie, c'est un pays très très vaste, il fait trois fois la France, mais il est très peu peuplé. Et ça donne un intérêt incroyable à chaque individu, c'est que finalement dans chaque région, la personne que vous allez rencontrer, qu'elle soit jeune ou un peu plus âgée, elle a été impliquée, ou sa famille a été impliquée, dans le développement historique du pays. Voilà. Dans les purges des années 30, dans ensuite la collectivisation des années 50-60. Et donc finalement, chaque individu, qu'il soit maire, notable ou simple éleveur de chèvres, etc., a des choses absolument incroyables à dire qui raccrochent sa petite histoire personnelle à l'histoire nationale.
On reviendra à la Mongolie un petit peu plus tard dans cette interview. Maintenant, je vais m'intéresser à toi, Marc. À quel moment tu as commencé à avoir envie de voyager ? Parle-moi de toi.
Alors, je n'ai pas eu particulièrement envie de voyager. J'ai, durant mon adolescence et tout le début de ma vie adulte, durant 10 ans, j'ai sacrifié tous mes week-ends et toutes mes vacances à randonner en France. Donc j'étais un jeune homme en quête de virilité, donc je partais l'hiver avec un tout petit sac à dos, parfois pas de sac de couchage, pas de tente, pas de réchaud, et voilà, j'essayais finalement de m'imprégner de mon territoire, de la métropole, quoi. J'avais envie de découvrir mon propre pays, voilà. Ça, c'était la première chose. Et puis a eu lieu la rencontre avec les Causses, ces grands plateaux calcaires de l'Aveyron et de la Lozère, et notamment sur le Causse-Méjean, qui est le seul petit écosystème de steppe en France. Et c'est là qu'a été réintroduit le tahri, le cheval de Przewalski, une vingtaine d'individus. Et c'est là, un jour d'hiver, avec mon ami d'enfance Laurent Barraud, nous passions Noël et le premier de l'an seuls à bivouaquer sur ce Causse, sous la neige. Et nous nous sommes dit, voilà, si un jour on doit partir à l'étranger, si un jour on doit partir en voyage pendant plusieurs mois, c'est ce type de paysage de steppe qu'on aura envie de découvrir. Et 10 ans plus tard, à l'âge de 24 ou 25 ans, on a ouvert un atlas, un planisphère du monde, et on s'est dit, bon, ces grandes plaines, où est-ce qu'elles s'étendent, où est-ce qu'elles se situent ? On a regardé le continent américain et on a vu les grandes plaines américaines, on s'est dit oui, peut-être. Et on a regardé de l'autre côté de l'Atlantique et là on a vu les grandes plaines eurasiatiques, dont finalement en tête nous avions beaucoup moins d'images. En plus il y avait une histoire féodale et puis ensuite une histoire communiste avec le communisme soviétique qui s'était implanté durablement pendant 70 ans et qui faisait que finalement on se disait ces fameux paysages, ils doivent être habités de gens qui ont beaucoup plus à nous dire qu'un Américain qu'on rencontre à Paris. Et donc c'est presque un peu par hasard, la première fois, on a pointé du doigt un petit croissant qui s'étend, un pays qui s'étend entre la Russie et la Chine, qui est enclavé, pour pas dire prisonnier, entre la Russie et la Chine. Et c'est un peu par hasard, finalement, la première fois qu'on s'est rendu en Mongolie pour 6 mois de marche.
Harang 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 har
quelle image tu avais de la Mongolie avant de partir? Est-ce que tu savais à quoi t'attendre ou pas du tout? C'était vraiment suite à la lecture de cette carte que tu étais attiré par ce pays?
Alors, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai décidé de mon départ 2 ans avant d'y partir. Et évidemment, j'ai cédé à l'appel des reportages photographiques, à l'appel des livres photographiques qui présentent une image enchanteresse, une image figée, une image très touristique de la Mongolie. Et puis, j'ai eu l'immense privilège de rencontrer 2 femmes, l'une qui est chercheure au CNRS, Marie-Dominique Even, qui est une des spécialistes de la Mongolie en France, qui parle en plus formidablement bien mongol. Et puis, Jacqueline Thévenet, un amateur éclairé, une vieille dame qui s'est passionnée pour le père Huc, un missionnaire français du 19e siècle qui avait longuement séjourné en Mongolie et appris le mongol. Et donc, ces dames-là m'ont... J'ai eu l'occasion de les rencontrer, et puis chacune d'elles m'a prêté un livre sur la Mongolie en me disant voilà, tu finis tes études, tu n'as pas trop d'argent, on te prête ce livre-là, tu nous le rapportes la semaine d'après, la semaine prochaine. La semaine suivante, je leur rapporte le livre, elles m'ont dit maintenant tu as lu celui-ci, il faut lire celui-là. Et voilà, ce processus a continué pendant 2 ans. Pendant 2 années, j'ai enchaîné les lectures, les conférences, et maintenant j'ai lu 200 ou 300 livres sur le sujet, en français, en anglais ou en allemand, sur la Mongolie. Et puis aussi bien des recueils de poèmes, des recueils de contes, que des ouvrages d'ethnographie, que des récits de voyages anciens ou contemporains, et puis des réflexions, des recueils d'aquarelles également. Et voilà, et du coup, je suis parti en Mongolie avec évidemment des idées reçues sur le pays, mais aussi un vrai bagage culturel. Et le premier intérêt, la première collision entre les idées reçues que je m'étais forgées et puis la réalité, elle s'est effectuée par la seule porte d'entrée du pays, quasiment, quand on arrive en avion, qui est Oulan-Bator, la capitale. Voilà, où là, effectivement, le voyageur est parfois choqué de prime abord par tout ce qu'il voit, à savoir une richesse extravagante, une pauvreté terrible, tout qui se côtoie. Voilà ce qu'il interpelle. Mais pas trace de nomadisme, si ce n'est dans le discours des politiciens, dans les affiches publicitaires, à la télé, à la radio, etc. Mais voilà, on sent tout de suite que c'est une référence culturelle, le pastoralisme nomade. Mais disons, ça n'est pas ça qui vous saisit quand vous descendez de l'avion. Donc la rencontre avec la Mongolie, le départ pour la Mongolie, c'est presque un hasard. Maintenant, ça ne l'est plus. Et puis la rencontre avec la Mongolie, c'est une surprise, un choc. Et ensuite, au fil des années, j'ai appris à apprécier Oulan-Bator, que j'aime maintenant terriblement. Parce que, certes, c'est une ville qui, selon nos avis d'occidentaux, est laide. Certes, c'est une ville qui est poussiéreuse. Certes, c'est une ville qui, en hiver, est couverte d'une sorte de bouclier, de chape de poussière et de pollution, notamment liée aux émissions des poêles à charbon qui brûlent et qui, dans les faubourgs de yourtes qui forment la périphérie de la capitale. Mais en attendant, il y a un intérêt culturel absolument formidable. Il y a auprès des gens un civisme qui, à mon avis, dont les Français ont, à mon avis, beaucoup à apprendre. Et voilà, ça a fait que finalement, au fil des années, même Oulan-Bator, c'est-à-dire même ce lieu qu'on dit tout sauf mongol, même ça, j'ai fini par l'apprécier énormément.
Le premier voyage a duré 6 mois, quand tu es parti là-bas pour ces 6 premiers mois. Quel était ton projet ?
Alors, je sortais du service militaire. J'avais une condition sportive assez satisfaisante et je me suis dit... un tiers de la surface du pays est occupé par le désert de Gobi et puis par des steppes arides ou semi-arides. Et donc, pour découvrir le pays, allons déjà découvrir cet écosystème principal et puis allons aussi à la rencontre de l'ethnie majoritaire, les Khalkh, qui représentent 78% de la population. Et donc, j'ai passé 4 mois dans le désert de Gobi et puis 2 autres mois de marche dans le Khangai, un grand massif montagneux qui se situe au centre du pays. Et évidemment, ça a été très difficile parce que marcher dans une zone désertique, ça implique un certain investissement physique, mais surtout psychologique, parce qu'il faut savoir enchaîner les étapes de plusieurs dizaines de kilomètres. Et puis lorsque vous avez effectué 35 ou 45 kilomètres avec un sac à dos de 30 kilos, qui comporte notamment 13 litres d'eau, vous arrivez à un puits, et puis là, le puits est à sec. Où le puits est ensablé, où au fond du puits il y a un cadavre de chèvre. Voilà. Et donc là, il faut savoir se serrer la ceinture, ne faire sans eau jusqu'au lendemain, et puis réenchaîner sur une nouvelle étape. Voilà. Le Gobi, pour moi, c'est comme ça une accumulation de souffrances, et en même temps, ça n'est pas une zone unique qui serait aride et désertique d'ouest en est, du nord au sud. Le Gobi, c'est une sorte de mosaïque de paysages très très différents et qui, de surcroît, est habité de gens qui en connaissent absolument tout. Voilà. Elle est habitée de pasteurs nomades et puis il y a également un certain nombre de villages. On compte 360 agglomérations en Mongolie. Alors ce sont des petits hameaux généralement, mais quand vous allez de l'un à l'autre, quand vous prenez le temps de cheminer de campement en campement, de yourte en yourte, vous découvrez que l'immensité des steppes, elle n'est immense, elle n'est unique, elle n'est uniforme que pour vous, le voyageur. L'éleveur que vous rencontrez, Batnassan, vous dira « Ah, mais tu te diriges vers l'ouest !» Alors voilà, lui déjà ne vous dira pas « Tu te diriges vers l'ouest !» Il te dira « Ah, tu files vers le campement de mon cousin !» Alors là, tu vas passer par un canyon qui est très sec, mais ensuite, tu verras, tu auras de quoi t'abriter. Et là, c'est mon campement d'hiver, c'était également le campement d'hiver de mon grand-père. Et puis ensuite, tu vas traverser un pâturage d'automne. Et voilà. Et finalement, on s'aperçoit que pour ces gens-là, l'immensité est tissée de fils invisibles. Et les Mongols ont un proverbe qui dit « Celui qui a des amis est large comme la steppe ». Et c'est dire s'il n'envisage pas l'immensité comme un obstacle qui empêcherait finalement les hommes de communiquer, mais plus comme un lien. Voilà, pour eux, la steppe, c'est une représentation finalement de la vie, quoi. Et c'est assez stupéfiant, effectivement, après des jours et des jours de marche sans voir personne, subitement d'arriver dans un petit campement. Alors vous dites, les pauvres, ils sont isolés. Non, pas du tout. Ils ne sont pas loin du village. Le campement nomade, au contraire, il est nomade, il est itinérant. Et ça veut dire que les éleveurs sont constamment au centre de leur univers. Voilà, ils ne sont pas en périphérie ils sont constamment au centre de leur univers. Et ça, c'est absolument, absolument délicieux à découvrir.
Ce sont souvent des familles qui se déplacent, hein, ou des amis. Comment est constitué ce campement nomade ? Qui le compose ?
Alors, écrire un catéchisme unique du nomadisme en Mongolie, à mon avis, c'est très difficile. Je pense que ça dépend des régions, ça dépend des conditions économiques, des périodes, des saisons également, des périodes historiques et des saisons. L'aile, le campement, généralement, c'est une famille nucléaire, les parents avec leurs enfants, et puis souvent les grands-parents au-dessus, s'ils sont encore vivants. Et ensuite, effectivement, on assiste parfois, et là c'est selon les saisons, parfois en hiver, parfois en été, à la formation de Hot Isle, plusieurs familles, plusieurs yourtes qui se rassemblent. Et alors ça n'est pas juste pour être ensemble parce qu'on se sent seul au milieu de la steppe, ça permet de libérer de la main-d'œuvre. Plutôt qu'il y ait deux adultes qui s'occupent des pattes courtes, des moutons ou des chèvres, finalement c'est un seul adulte qui va s'occuper de deux troupeaux, pendant que l'autre va louer son camion aux familles voisines pendant les périodes de nomadisation, ou va partir chasser la marmotte à l'automne, éventuellement chasser le loup en plein hiver. Donc voilà, ça serait difficile de dire un campement ressemble à ceci ou à cela. Généralement, c'est une famille, mais on peut aussi s'associer avec un ami, un cousin, un frère, etc. Et puis, il y a aussi parfois les malheurs de la vie qui font que un tel disparaît par maladie ou autre. Et dans ce cas-là, automatiquement, les liens d'amitié, de parenté, les réseaux d'influence, etc., font que la personne n'est jamais laissée seule, comme cela peut être le cas chez nous en ville. Automatiquement, elle réintègre, par exemple, une veuve va réintégrer le campement de son frère ou autre. Voilà, les personnes ne sont jamais abandonnées. Pour moi, c'était la grande découverte du peuple mongol, c'est avant tout la découverte de leur joie de vivre, faire beaucoup avec peu, et puis constamment se réjouir de l'actualité, du quotidien, plutôt que de dire « Ah, on est malheureux, espérons que ce soit mieux demain », là, ce sont des gens qui espèrent et qui croient profondément, c'est presque une religion, je trouve. Et la deuxième chose, c'est la générosité incroyable. Alors, générosité, savoir partager, évidemment, l'alimentation, vous invitez, mais aussi savoir donner du temps. Voilà, la générosité, c'est avant tout donner du temps, aider, mettre en relation les réseaux de façon à ce que plein de petites gens puissent survivre et puis puissent, et c'est le cas en Mongolie, construire une nation, une identité mongole. Il n'y a pas une unicité mongole parce qu'il y a une multitude d'ethnies, une multitude de façons d'appréhender la vie, le pastoralisme, etc. Mais en tout cas, il y a une véritable identité mongole, et ça, je crois que c'est le fruit de cette cohésion.
Авын ирэг хүм бүхэн дуугүйчэгнэн айлын эмээ ангирыг өрөвдөж нөлмөс сонгов. Тэрнээс хойш аавмын нэг л зөвөртэй болов. Тэр хэсэгдэн өвлжөөнөөс нэг л нүүхэн болов. Гурван гэрийн хондээлж дороо эргэн гурван ноотл манай ээлж эргээд ирнэ. Өндөр өд хоньон бүүлчээ гэж аавмын захин өглөө булган гаднаан сууж оргилыг дурандан нь хөөшин өвлжөөнд чандамлж буусан гурван гэр хүмүүсийн арааг өөртөө дутсан гурвалжин өргөл цэнхэр дэнгэрт эврэн зэрэсэн харлагт их чанх дээр нь өдөржин өргсөн хөрөн бүргэд ийм л зураг олон хоногоор аавд мань харагдав. Энэ л зураг олон хоногоор өвлжөөн суулгав. Нэгэн өглөө оргилыг дурандаад аавмын орж ирв. Нэг л харахнаа баяртай мишээгээ цайгаан уудсав. Яг л ёсоорон хальждээ хөөрхий гэж аавмын ярив. Яамаада яамаа хөөрхий юм гэж ижи өрөвдөв. Маргааш өглөө нь гурван гэрээр ангирт очиадлав. Манарсан бууцнаас хүн бол маань зэрэг хөдлөв. Тэхийн зогсоол оргилыг аавмын нэг эргэж харав. Төрсөн нутг минь гэж эцэг минь нэг аяархан хэлв. Тэр нэгэн жилийн тэр нэгэн өвлийн үн төгөөн тэхийн зогсоол гэж тэр өргөлийн өндрийг аан.
Donc là, la poésie qu'il vient de réciter, c'est très très connu, traditionnel. Donc il s'agit d'un mâle de Bouctin qui à la fin de sa vie à cause de la vieillesse et puis qui n'arrive plus à relever sa tête avec le poids de ses cornes. Donc c'est une philosophie qui parle de la loi de la nature, de la fin de la vie. Donc le bouquetin qui continue à grimper jusqu'au dernier sommet, plus haut. Après, il peut plus avancer, il attend sa vie paisiblement. Donc la famille nomade qui passe à proximité, il peut plus bouger avant qu'il meure pour rendre hommage. Donc t'as l'aigle qui tournoie au-dessus, il attend sa mort, la mort du bouquetin. Puis un matin, tout le monde se sentit soulagé parce que le vent qui emportait le bouquetin. Donc après, ils repartent en transhumance et la vie continue. Donc c'est une jolie histoire.
Superbe.
Ouais, une jolie philosophie, jolie philosophie de la vie, vision pour la vie à la Mongole.
Ouais, superbe.
Superbe.
Ouais.
C'est une école de la vie qu'on apprend à l'école. C'est de la poésie qu'on apprend par cœur, qu'on nous faisait réciter par cœur à l'école. Ouais, c'est très 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 chiant.
Je vais revenir sur le désert de Gobi, donc le désert qui a un biotope extrême. Pourquoi avoir envie de vivre ces conditions de vie extrêmes? Pourquoi aller se mettre à marcher, vouloir traverser un désert à pied, seul ou avec un ami accompagné? On sait que ça va être très difficile. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Tu aurais pu rester chez toi en France et avoir une vie beaucoup plus confortable.
Ça, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon récit. J'étais un fils de militaire qui a été élevé selon certaines valeurs très, très rigoureuses, très strictes, très dures, etc. Et puis voilà, à l'âge de, au début de la vie adulte, j'étais en quête de virilité et surtout j'étais absolument fasciné par toutes mes lectures d'adolescence, par Théodore Monod, par finalement un certain nombre de Wilfred Tessiger, par un certain nombre de personnes qui avaient tenté de dépasser leurs limites, non pas simplement pour s'avouer plus fort, mais avec un but de rencontre derrière. Voilà. Le fait de traverser un désert de sable ou un reg, souvent un plateau caillouteux, parce que l'immensité du Gobi n'est pas constituée de dunes, il y en a une ou deux, comme des très belles et très grandes comme à Hrongor, mais l'immense majorité du Gobi, c'est imaginer une table sur laquelle vous jetez une pelletée de cailloux, une pelletée de sable, et voilà ce que représente globalement le désert de Gobi. Et moi, en bavant dans cet écosystème, arriver à me passer d'eau pendant une journée, ne pas manger pendant deux journées, et puis grignoter seulement de la roule, du fromage séché sur le toit de la yourte pendant une ou deux semaines, ça ne me dérange pas s'il y a la promesse, alors qui n'est jamais certaine, mais s'il y a la volonté d'aller rencontrer quelqu'un derrière. Voilà, ça me motive. Et puis, disons-le simplement, la rencontre avec un Mongol ou un Espagnol, ou etc., m'intéresse peu si elle est trop facile. C'est-à-dire que finalement l'effort, l'investissement physique et psychologique, parce que ne pas savoir de quoi le lendemain sera fait quand on a seulement un kilo de farine, un kilo de sucre, pour voilà, ça c'est quelque chose d'assez difficile, mais cet engagement-là, ça donne beaucoup plus de force à la rencontre qui se situe derrière l'obstacle de l'effort, etc. Donc, je me suis lancé dans le Gobi une première fois parce qu'effectivement, j'appréciais ces valeurs d'endurance, d'effort, etc. Mais globalement, ce qui me motivait vraiment, c'était d'aller rencontrer les gens qui eux, peuplaient et faisaient naître la vie dans cet espace. Voilà.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.